Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1978, Musique de notre temps recevait l'ethnomusicologue franco-israélien Sima Arom pour parler de la musique des pygmées Aka. Cette musique, Sima Arom l'avait découverte dans les années 60. Alors membre de l'orchestre symphonique de la radio israélienne, passé par le Conservatoire national de Paris, il fut chargé par le ministère israélien des Affaires étrangères de former une fanfare en République centrafricaine. Cette fanfare ne vit jamais le jour, mais à cette occasion, Sima Arom, ébloui, se passionna pour les musiques des pygmées Aka, dont il accumula les enregistrements captés dans les villages au cœur de la forêt. Développant une méthode d'analyse scientifique de ce patrimoine musical, il contribua à le protéger, à le faire connaître et comprendre dans le monde entier par des livres, des films et l'édition de nombreux disques. Musicologue de renommée internationale, directeur de recherche émérite au CNRS, Sima Arom a, par ses travaux, influencé des compositeurs tels que Luciano Berio, Ligeti et Steve Reich. Au micro de Georges Léon, Sima Arom nous faisait partager sa passion pour cette fascinante musique pygmée. Musique de notre temps, la musique des pygmées Aka, avec Sima Arom au micro de Georges Léon, en 1978.
Sima Arom, en vous recevant aujourd'hui, il me semble qu'il va devenir possible, à partir d'un aspect singulier de vos travaux, d'aboutir à une réflexion d'ordre plus général sur le métier de musicien. Sans autre préambule, et pour bien dessiner, brosser le décor dans lequel nous allons nous promener ensemble, j'aimerais donner à entendre des appels de chasse mongombi que vous avez pu enregistrer dans l'Empire centrafricain, ayant rencontré des gens que vous connaissez très bien maintenant, les pygmées Aka. Ces appels de chasse entendus, Sima Arom, et je dois rappeler que ce sont des appels de chasse mongombi que vous avez enregistrés auprès d'un groupe de pygmées Aka dans l'Empire centrafricain, nous pourrions aussitôt déboucher dans un univers que l'on appelle celui de l'ethnomusicologie. C'est le terme du moins qui tendrait à s'imposer lorsqu'on vous a comme interlocuteur, mais c'est un terme que j'aimerais, non point tout à fait évacuer, mais écarter pour un temps, au moins afin de mieux le comprendre par la suite, c'est-à-dire lorsque nous aurons appris de vous ce qu'il pouvait signifier vraiment et comment il se distingue du reste de la musicologie, ce qu'il peut sous-entendre, voire exiger d'autres, si tant est d'ailleurs qu'il ait à nous fixer de tels impératifs. Alors, ethnomusicologue, vous l'êtes certes, vous l'êtes devenu, mais lorsque nous entendons une telle musique, vous prenez soin de nous informer que pour ceux-là même qui la produisent, ce n'est pas de la musique. S'il vous plaît, un mot d'explication.
Mais tout dépend à quel point de vue on se place. Évidemment, pour nous, lorsqu'on entend des choses aussi étranges, aussi belles et aussi surprenantes, et le terme musique avec l'ampleur qu'il a chez nous, dit « quelle musique extraordinaire ». Bien. Le chercheur qui est confronté à la musique qui appartient à d'autres gens, se doit de les interroger, eux, pour voir quelle est leur conception de la musique. Et est-ce que d'abord il y a un concept comme musique? Alors là, tout de suite, je vous dis que dans la langue des Pygmaeaka, il n'y a pas de concept. D'ailleurs, dans la plupart des langues africaines, il n'y a pas de terme pour dire musique. On y reviendra peut-être après pour éclaircir comment on peut tout de même parler de musique en sachant que c'est de la musique. Il y a le chant, il y a la danse, et ces deux-là forment ensemble de la musique. Mais un terme aussi abstrait que cette chose bizarre, musique, n'existe pas. Bon. Mais ces cris de chasse ne sont pas considérés par les Pygmées comme appartenant précisément aux catégories chant et danse, parce que précisément, il s'agit là d'une, alors maintenant, musique entre guillemets, qui n'est pas mesurée, c'est-à-dire qui ne permet pas que l'on danse dessus. Et en effet, ce sont des appels de chasse et qui servent aux chasseurs à se localiser réciproquement dans la forêt lorsqu'ils s'étendent sur une très grande superficie pour y poser des filets. Et ils communiquent ainsi pour se dire les uns aux autres où ils sont et où ils en sont dans cette phase de la pose du filet.
Et par la suite, dans le cours de ces appels, dans l'enregistrement que vous nous avez proposé, on comprend aussi une autre fonction de ces appels. Car il semble que nous soyons subitement confrontés à la prise même du gibier dans l'évolution sonore. Je dirais cela exprès.
Oui, parce qu'une fois que les filets sont posés, les hommes et les jeunes enfants, avec des petits chiens d'ailleurs, rentrent à l'intérieur du filet et il y a la battue du gibier à l'intérieur pour le faire sortir. Et les femmes sont autour du filet pour attendre avec des sagaies et pour tuer ce gibier. Et alors, ce qui fait que ces appels de chasse se transforme au fur et à mesure vraiment en une espèce de battue.
Vous parlez de cela très savamment, en parfaite connaissance de cause, mais j'imagine que lorsque le musicien professionnel que vous étiez, l'instrumentiste que vous étiez, est arrivé pour la première fois sur le lieu de ses recherches, la surprise a pu être grande.
Il faut dire qu'il y a quand même bien longtemps, parce qu'il y a 15 ans maintenant, c'était une surprise absolue. Parce que, ayant grandi dans la musique occidentale, et seulement dans la musique occidentale, je m'étais trouvé confronté, comme ça, un jour, à des musiques, il y a énormément, très différentes, et qui présentent toutes les caractères d'être complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de ce que je connaissais.
Alors c'est le moment pour moi de rappeler, et vous me le permettrez, Shimra Ahom, de rappeler quelques épisodes de votre carrière passée. Vous avez abordé la musique comme instrumentiste, vous avez appris à jouer du cor, en partie d'ailleurs, au Conservatoire National Supérieur de Paris, qui vous attribuait le premier prix dans cette discipline. Et puis, vous avez été chargé d'un poste important, le pupitre de cor solo d'un orchestre symphonique, de l'Orchestre Symphonique de Jérusalem. Un jour, le corniste Shimra Ahom, dont la carrière est déjà bien établie, se trouve subitement chargé d'une mission qui va l'emmener en plein cœur de l'Empire centrafricain. Alors, une question. Les critères qui habituellement vous servaient alors d'approche pour le phénomène musical allaient-ils être suffisants pour comprendre d'emblée, dirais-je, des musiques semblables à celles dont nous percevions quelques échos à l'instant ?
Oui et non. J'ai dit oui parce que dès la première fois que j'ai entendu de la musique africaine, j'avais compris un certain nombre de choses qui me paraissaient évidentes. Par exemple, que ces musiques sont extrêmement rigoureuses. Mais, alors ça c'était clair. Alors, le nom, c'était comment ils font, ces gens, pour faire des musiques aussi complexes, pour être ensemble, pour arriver à... pour partir ensemble, pour être tout le temps ensemble, pour s'arrêter en même temps, sans jamais interférer les uns dans les parties des autres, dans des phénomènes polyrythmiques d'une extrême complexité. Et alors, on a d'un côté cette espèce de sentiment extrêmement fort que tout ce que vous entendez là est d'une rigueur absolue, je dirais, arithmétique, mathématique, et de l'autre, le désarroi total d'être là à 3 mètres et d'entendre la musique et de voir comment les gens font la musique et de ne pas arriver à faire cette espèce de lien audiovisuel, si vous voulez, pour comprendre réellement, pour un musicien, comment d'autres musiciens font de la musique.
Je suppose qu'au cours de notre entretien, vous aurez la possibilité de nous dire la méthode que vous avez adoptée pour parvenir à les comprendre, à les vivre parfaitement. Le parcours que nous allons effectuer ensemble aujourd'hui paraîtra, si l'on considère les exemples musicaux qui vont intervenir dans leur continuité, celle que nous avons choisie, peut-être pas toujours très ponctuelle, mais... cette musique rythmique, ces appels de chasse et vocales que constituaient ces appels de chasse vont bientôt être, non pas remplacés, mais complétés dans l'exemple par, un solo instrumental dont je sais qu'il a beaucoup compté pour vous lorsque vous l'avez entendu pour la première fois, ou du moins l'un des exemples semblables. Il s'agit de l'arc musical. Je crois que ça a été pour vous une sorte de révélateur aussi dans un autre domaine que celui que nous abordions.
C'est une des premières choses que j'avais découvertes en promenant autour de Bangui un dimanche. J'étais là depuis 15 jours. Bangui, c'est la capitale de l'Empire centrafricain. Et dans une clairière, dans un tout petit hameau, je reverrai toujours un homme assis sur le pas de sa case et tenant un arc comme un arc de chasse en fait, avec la corde de l'arc dans la bouche et frappant cet instrument avec une petite baguette de rotin, hein, et produisant des sons assez extraordinaires avec un instrument extrêmement rudimentaire. Et puis, bon, cet instrument a été un peu aussi une petite boucle, si vous voulez, pour moi, parce que je l'avais enregistré comme ça, pour le plaisir, pour avoir le timbre de l'instrument. Et puis, presque... 7 ans après, j'ai été amené, par des circonstances totalement différentes, à revenir auprès de ce musicien avec lequel je m'étais lié d'amitié, parce qu'on se revoyait assez souvent, j'allais souvent chez lui quand il venait à Bangui, on se voyait, et à étudier l'instrument, le répertoire de cet instrument, et à travers ce répertoire, de découvrir quelque chose que je ne soupçonnais absolument pas, c'est-à-dire tout le système cosmogonique de la population à laquelle il appartient. Vous voyez, quand on parle d'ethnomusicologie, que c'est un domaine extrêmement vaste.
C'est pourquoi je prenais le soin de dire qu'il fallait se méfier, au fond, des termes qu'on emploie trop rapidement souvent, comme celui d'ethnomusicologie. Écoutons, si vous le voulez bien, cet enregistrement d'arc musical réalisé par vos soins. Thank you. Imra à Rome, si parfois en écoutant les musiques provenant d'ethnies très lointaines, on a tendance à être d'abord séduit par un exotisme au premier degré, je dois avouer qu'en découvrant ce que vous venez de nous donner à entendre, le raisonnement est tout à fait différent, la réaction aussi. Parce que il est beaucoup plus facile de saisir, en écoutant cet arc musical, de saisir, disais-je, la part considérable que cet instrument apporte à la compréhension des origines de la musique. Si même on a tendance à un moment à confondre la sonorité, le timbre de l'instrument avec une sorte de guimbarde, il faut se souvenir, les termes nous y aident, que l'arc est beaucoup plus ancien encore que cela. Mais alors, je voudrais vous poser aussi une question. Est-ce que de nos jours, cet arc musical tient dans la vie du groupe une fonction très précise, au-delà de son apport musical?
Absolument. Et si j'ai parlé tout à l'heure en relatant ma rencontre avec l'instrument d'un hameau et non pas d'un village, c'est précisément parce qu'on n'a pas le droit de jouer l'instrument au village. Et on a le droit de le jouer que dans la forêt. Et comme mon musicien était dans un hameau qui était à l'intérieur, une clairière à l'intérieur de la forêt, c'était considéré comme faisant partie du domaine de la forêt qui s'oppose, n'est-ce pas, au domaine du village, dans la culture d'Engbaka, c'est-à-dire la population à laquelle ce solo, cette musique appartient. Et en fait, cet instrument a une fonction rituelle très importante. Il est relié à la chasse, et non pas à n'importe quelle chasse, mais à la chasse au piège, c'est-à-dire à une technique de chasse particulière. Et en cela, c'est un instrument absolument fascinant, parce que, non seulement que l'arc musical est considéré par tous les spécialistes comme l'ancêtre de tous les instruments à cordes, mais encore, c'est que on a trouvé récemment en France, dans l'Ariège, dans une grotte, des peintures rupestres qui montraient un homme jouant de l'arc, et on considère, on date un peu ses dessins à 15 000 ans, et cet homme qui jouait de l'arc musical sur cette peinture était revêtu d'une peau de bête et se trouvait derrière un troupeau de bisons, ce qui permet de penser qu'il y avait là aussi une relation avec la chasse et avec l'envoûtement, car l'arc musical, celui que vous venez d'entendre, lui, son rôle est de se rendre propice les génies de la chasse, de la technique du piégeage, pour qu'ils fassent venir le gibier dans les pièges.
Parallèlement à cette fonction que vous venez de relater, il apparaît que le domaine de l'anthropologie puisse être également abordé avec des exemples de ce genre.
Oui, je parlais de cosmogonie. Par exemple, vous êtes en rapport avec ces génies, n'est-ce pas? L'arc, comme dit Massimo Kobo, c'est le musicien qu'on a entendu, il dit l'arc musical, c'est le tambour des génies, au son duquel ils aiment venir danser. C'est-à-dire que ces génies du piégeage ont une place parmi d'autres génies qui ont des fonctions différentes. Et de proche en proche, vous êtes projeté en enquêtant sur des phénomènes pareils, sur quelque chose qui vous éloigne petit à petit de votre sujet. Et ainsi, de proche en proche, on arrive dans un monde qui est mythique. On ne sait plus très bien d'ailleurs où on est, parce que la logique interne de ce système est tellement forte que vous commencez à construire dans votre propre esprit la vision du monde qu'on l'Engbaka. N'est-ce pas? Alors qu'au départ, on était venu gentiment en disant, bon, voilà un instrument, on fait une description, voilà comment on le joue, on fait une photo de face et de profil, le répertoire, voilà à quoi ça sert, n'est-ce pas? Et puis vous voilà en plein de naviguer, si je puis dire, dans la cosmogonie d'Engbaka.
On comprend alors, en vous écoutant, que de nos jours, vous ayez pu être amené à exercer au sein du Centre national de la recherche scientifique des fonctions que l'on résume sous le titre que vous portez, celui de maître de recherche, en écrivant ce terme au pluriel. Il ne s'agit plus simplement d'une fiche anthropologique, mais de tout un monde à découvrir. Alors, confronté à l'inconnu, vous nous avez déjà laissé percevoir que si les suggestions étaient nombreuses, les difficultés l'étaient tout autant, les difficultés de l'approche, de sensibilisation, de décryptage peut-être même. témoignent de ses travaux, jusqu'à présent, un grand nombre d'enregistrements. Simcha Aharon, dont l'un des plus récents, sinon le plus récent, est considérable par son volume même. C'est une anthologie des musiques pygmées Akka que Radio France a publiée dans sa collection Okora, musique traditionnelle vivante. Et l'Académie Charles Cros a distingué, il faut le souligner, ce recueil, ce volume, en vous accordant le prix du président de la République. Cela rappelé, je n'insisterai pas sur les années que vous avez consacrées ou qui ont été nécessaires pour rassembler les meilleurs exemples qui constituent cette anthologie, mais un mot quand même, car lorsque nous l'écoutons, dans la continuité de cette écoute, il semble que tout était facile. Et vous nous aidez, en tout cas, par la spontanéité que l'on a à comprendre, vous nous aidez en tout cas à comprendre, à saisir que cette musique est bien celle dont vous nous parlez dans le texte joint à l'album, à savoir que cette musique n'est jamais écartée du déroulement quotidien de la vie et qu'elle explicite même l'organisation sociale du groupe.
Je ne sais pas si elle l'explicite, en tout cas elle le reflète. Chez les pygmées, c'est tout à fait... C'est tout à fait particulier, c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire que les modalités d'exécution d'une musique sont un parallèle, en quelque sorte, un reflet, un miroir, si vous voulez, de l'organisation sociale. C'est-à-dire que tout y est parfaitement organisé, si on voulait le résumer en quelques mots. C'est une espèce de fusion entre, d'une part, une rigueur extrême et, de l'autre, une liberté extrême. Et quand je dis d'une part et d'autre part, vous voyez, je m'exprime déjà très mal, parce qu'en fait, c'est la fusion entre ces deux choses, et c'est ça qui est absolument stupéfiant. Et cela, dans la musique chez les pygmées, en particulier, ça se retrouve à tous les niveaux, dans toute exécution, lorsqu'ils font ces polyphonies, ces étonnantes polyphonies vocales qu'ils ont. Passer d'une partie à l'autre, lorsque deux musiciens chantent à l'unisson, immédiatement, ils dévient l'un de l'autre pour ne pas rester à l'unisson, pour chanter à plusieurs parties. Et en fait, toute la façon de pratiquer la musique peut être résumée à cela, à ces deux mots, rigueur et liberté. Et le mode d'emploi, si je puis dire, est assez extraordinaire, parce que pour nous autres occidentaux, d'être à l'aise dans ces deux, et qui sont tout le temps là, simultanément, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire.
En est-il ainsi lorsqu'on écoute des trompes?
Vous avez différents ensembles de trompes. Peut-être il faut dire un mot sur ces ensembles qui sont particuliers, non pas seulement à la Centrafrique, mais qu'on trouve pratiquement depuis l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud, presque, c'est-à-dire surtout le continent africain. Les trompes africaines sont des instruments qui souvent ne sont pas joués seuls, mais en série d'instruments qui peuvent aller de 6 jusqu'à une vingtaine d'instruments. Je fais des enregistrements, il y avait 18 instruments dans un orchestre. Ils forment des orchestres. Et le particulier de ces instruments, c'est que chacun d'eux ne fait qu'une seule note. Une seule note est toujours la même. Et c'est avec ça qu'ils font une musique qui se rapproche beaucoup d'un type de musique qui était pratiquée à l'époque médiévale chez nous, qui s'appelle le hoquetus, le hoquet, ce qui veut bien dire, son nom indique bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire une intercalation de différentes notes isolées, faites chacune par un musicien, et qui ensemble donnent une musique, une espèce de mosaïque, si vous voulez. Alors la difficulté, c'est quand on joue de telles musiques, c'est d'arriver à placer sa note, n'est-ce pas, au bon moment par rapport aux autres, parce que sinon tout est décalé et rien ne fonctionne plus. Et là, il faut des réflexes assez rapides et un sens du rythme tout à fait extraordinaire.
Nous allons en juger à l'instant. Thank you. Exemples sont nombreux parmi ceux que vous nous avez proposés, Simcha Aharon. Nous écoutions des trombes africaines, nous ne sommes plus très loin du cor, votre instrument d'origine, et nous allons le trouver, ce cor servi par vos soins. Mais auparavant, et profitant de cet exemple, vous nous disiez tout à l'heure que chaque instrumentiste était dans l'ensemble chargé d'émettre une note, une seule, toujours la même, et qu'il y avait des problèmes rythmiques qui naissaient de cette apparente monotonie. Je dis bien apparente parce qu'à bien entendre, il apparaît que des micro-mutations interviennent à tout instant et que la rigueur dont vous parliez vient compenser aussi cette liberté de la monotonie.
Oui, on pourrait dire, en parlant des musiques à une première écoute comme ça, ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression d'entendre presque tout ou tout le temps la même chose et jamais la même chose. C'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est jamais pareil. Ce qui est évidemment très très contradictoire. Bon, il faut dire peut-être que ce sont des musiques qui se fondent sur des principes qui sont très différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés. Par exemple, toute la musique savante occidentale, n'est-ce pas, procède sur des développements d'éléments. Et on prend un thème et on le développe et on le transforme quand on ne peut plus rien en faire. Ou bien avant, on présente plusieurs thèmes et on les développe, on les mélange, on les superpose. Et on les étire tant qu'on peut, et ce qu'on appelle le travail thématique. Bon. La musique africaine procède sur un principe qui est circulaire. Ce sont des musiques cycliques, ce sont des musiques en boucle, où je ne vais pas dire que ce sont des musiques répétitives, mais je dirais que les musiques répétitives d'aujourd'hui, n'est-ce pas, fonctionnent exactement d'après les principes d'une grande partie, de la majeure partie des musiques africaines. Et là, il s'agit du continent noir en général, n'est-ce pas? Donc, et qu'est-ce qui se passe dans le déroulement, dans le temps d'une musique? Il se passe que on répète et on varie. C'est-à-dire, c'est le principe, si vous voulez, aussi pour faciliter un peu la compréhension, on pourrait dire que toutes les... pas toutes, mais une grande partie de ces musiques fonctionnent en quelque sorte, quand il s'agit de polyphonie par exemple, comme des passacailles. C'est-à-dire que vous avez un élément qui est toujours stable, mais toute la musique est fondée sur une durée périodique qui est rigoureuse, qui est toujours la même, et à chaque reprise, le matériel se renouvelle tout en restant très proche de ce qu'il était, et ne se transforme pas, il se pétrit d'une façon différente. Vous voyez, avec des lois, bon, qui sont assez compliquées et que, qu'on ne va pas évoquer ici.
Je ne chercherai pas un détour pour nous amener à entendre maintenant Simcha Aharon, instrumentiste, tel qu'il pouvait enregistrer voici quelques années maintenant une œuvre de Brahms. Mais la logique, je crois, de ce que vous nous disiez concernant l'organisation du développement musical centrafricain ou africain tout court, d'ailleurs, va être conforté par ce que nous écoutons du développement occidental. Et s'il y a quelqu'un qui a bien connu la variation, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est bien Brahms, dont vous nous proposez d'entendre le troisième mouvement du trio pour cor, piano et violon, que vous avez enregistré avec des collègues musiciens à Jérusalem.
Il y a de cela bien, je crois, 17 ans.
Écoutons. Thank you.
Thank you.
troisième mouvement du trio pour corps, piano, violon de Brahms, le corniste étant dans cet enregistrement Simra Arom. Alors Simra Arom, nous pourrions bien sûr parler de la musique de Brahms pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, mais je pense que dans le contexte de cette émission d'aujourd'hui, une question ne vous paraîtra pas tout à fait incongrue, ce sera celle-ci. En supposant que vous ayez eu à donner à entendre une telle musique au pygmée Aka, quel serait le comportement de ses auditeurs?
Je dirais une curiosité bienveillante, une attention bienveillante, parce que je pense, par gentillesse, par courtoisie, car ce sont des gens très bien élevés, si je leur faisais entendre une musique comme celle-là, ben, ils l'écouteraient. Je n'ai pas fait l'expérience avec des pygmées, j'ai fait ce genre d'expérience, surtout au début, quand on est assez naïf, faut dire, avec d'autres, des Africains, d'autres populations. Et je crois que ce genre d'expérience, pour être valable, requiert qu'on ait des relations assez proches avec les gens avec lesquels on le fait, parce que sinon, on vous répond par gentillesse, et on vous répond un peu n'importe quoi, ben on se dit, il nous fait entendre ça, c'est donc il veut qu'on dise que c'est bien, on dira, c'est très très beau. Bon, alors ça marche pas, évidemment. Alors je l'ai fait avec des gens que je connaissais très bien, avec des gens avec qui je travaille depuis des années, des musiciens, et par exemple des traducteurs d'une langue à l'autre, auxquels je demande souvent de m'aider quand je suis dans une population où j'ai du mal à me débrouiller pour des raisons linguistiques. Et je l'ai fait avec les gens que je connais bien. Alors la réponse, elle est toute simple et superbe. Elle est, écoute, ça c'est ta musique à toi. Hein.
C'est très important ce que vous venez de me dire. C'est ta musique à toi. Il s'agissait de Brahms. Sans doute. Mais alors, n'y aurait-il pas un risque, lorsqu'on exerce un métier comme le vôtre, de vouloir accaparer leur musique à eux pour en faire notre musique?
Évidemment. C'est-à-dire que la chose la plus difficile, ou l'une des plus difficiles, c'est vraiment d'arriver à éviter, à projeter sur leur musique les choses qui nous sont familières à nous, et la systématique qui est la nôtre dans tout, d'ailleurs, un peu, c'est pas seulement en musique. Et d'arriver à étudier une musique qui appartient à une autre population, une civilisation totalement différente, selon des critères qui sont les leurs et pas les nôtres.
Bon, alors... Voilà un problème, en effet, dont on vient de parler.
C'est le problème le plus important. En fait, on est là de gens qui sont les uns en face des autres, et chacun est différent de l'autre, et... finalement, à la question que vous posiez, quand on dit comment un Africain réagit à une musique occidentale, la réponse est encore plus simple. Elle est comme un Européen, un Occidental, qui n'a pas l'habitude d'entendre la musique africaine et qui réagit à cette musique en disant, dans le meilleur des cas, n'est-ce pas, bon, ben, c'est du tam-tam. Et je dis dans le meilleur des cas, parce que souvent, on dit, bon, on hausse les épaules, c'est la musique de sauvage. Bon.
Oui, c'est cela, l'exotisme primaire dont je parlais tout à l'heure.
Et oui, oui. Alors, c'est pour cela que c'est important d'arriver à montrer, lorsque c'est possible, et c'est pas toujours commode, précisément la rigueur qui sous-tend toutes ces musiques. Et effectivement, on ne peut avancer dans un tel travail si l'on n'arrive pas à dégager des critères qui sont les critères par lesquels les Africains eux-mêmes, c'est-à-dire même pas les Africains eux-mêmes, les gens d'une population, parce que chaque population a sa propre musique. Et quand les gens d'une population africaine, vous leur faites entendre la musique d'une population africaine différente, leur réaction est la même que celle par rapport à Brahms ou Mozart. Alors ils disent, ah bon, oui, bon, ça, wow, d'accord, ça c'est du chelik baya, ça, avec tout le mépris, n'est-ce pas, qui va avec. Voilà. Tout ce qui n'est pas leur propre musique n'est pas bon. Et pour tout ce qui n'est pas, finalement... C'est une réaction assez humaine, en général. Tout ce qui n'est pas chez eux n'a pas la même valeur que ce qui est chez eux. Qui a la meilleure musique, c'est moi, n'est-ce pas? Alors, pour chacun d'eux, et chaque fois, on est obligé de passer par les critères selon lesquels eux regardent leur musique. Je ne dis pas juge leur propre musique, parce que je ne parle pas là de critères esthétiques. Je parle de critères structurels, c'est-à-dire de règles de fonctionnement, si vous voulez. Alors ça, c'est une chose assez compliquée.
La musique... a dans cette partie du monde une fonction que vous avez su souligner, dont vous avez laisser percevoir aussi la pluralité de fonctions. C'est une musique entièrement transmise de façon orale. Alors, les premiers qui vont la transmettre un jour à leur tour, bien, ce sont les enfants, et je sais, parce que vous m'en avez parlé préalablement à cette rencontre d'aujourd'hui, que la part musicale réservée aux enfants est considérable dans la plupart des groupes que vous avez connus. Vous nous en avez apporté un exemple. Ce sont les derniers enseignés qui vont un jour leur transmettre, mais leur transmettant aussi la forme, l'interprétation. Y a-t-il une école, si je puis dire, d'interprétation ?
Alors, c'est très particulier. Dans la plupart des populations, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'enseignement institutionnalisé. Sauf des cas particuliers, comme par exemple les rites de passage des enfants. Lorsqu'ils doivent passer du stade d'enfant à celui d'adulte, ils se retirent dans un campement au cœur de la brousse, près d'un petit marigot, une petite rivière, et là on leur donne un enseignement de toutes sortes de choses, n'est-ce pas ? Aussi bien de savoir se comporter en société que de toutes sortes de techniques, de la chasse, autre chose, et aussi un enseignement musical, et souvent avec l'enseignement d'instruments de musique. Par exemple, les trompes que nous avons entendues, on apprend à jouer ces trompes dans le campement d'initiation. Alors là, il y a quelque chose qui ressemble à un enseignement, mais qui est extrêmement intensif, puisque c'est un enseignement qui dure quelques semaines, n'est-ce pas, et qui se termine là. Pour la plupart des autres musiques, il n'y a pas d'enseignement, et on apprend à faire de la musique comme on apprend à parler. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, et je le dis exprès comme ça, parce que je crois que c'est la seule comparaison qui soit appréhendable par nous autres occidentaux. C'est-à-dire, comment peut-on faire de la musique sans avoir jamais appris à faire de la musique ? Ce qui fait qu'il n'y a pas de musicien professionnel, ce qui fait également que pratiquement tout un chacun dans une population africaine est musicien, centrafricaine. Hein. Il y a des pays où c'est tout à fait différent, en Afrique de l'Ouest. Mais là, dans l'empire centrafricain, presque tout le monde est musicien. Alors c'est absolument sidérant, parce que moi je connais, je vais vous donner un exemple, les musiciens que je connaissais comme tambourinaires. Avec lesquels j'ai travaillé, j'ai fait des enregistrements, j'ai fait des études sur les formules rythmiques, etc., pendant 5 ans. L'an dernier, j'étais là-bas au mois d'août, et il manquait un xylophoniste d'un ensemble qui était parti, on ne savait où, il avait disparu, comme ça, au milieu de l'enregistrement. Et alors, je dis, mais on ne peut pas continuer, il manque le xylophoniste. Et voilà mon tambourinaire, qui se met au xylophone, et qui est un virtuose de cet instrument. Alors, naturellement, la question de l'ethnomusicologue, mais enfin, tu ne m'as jamais dit que tu savais jouer du xylophone. Et la réponse non moins classique de ce qu'on appelle l'informateur, n'est-ce pas qu'il y avait un mot, de ce musicien qui est en face de moi, qui vous répond, mais tu ne m'as jamais demandé. Voilà.
Ce que je vous demande, moi, Simra Arom, c'est de nous donner à entendre un exemple de chant d'enfant.
Kulenda beye, kulenda ba, kulenda beye, kulenda ba, kulenda
Nous écoutions un exemple de chant d'enfant enregistré par vous dans l'Empire centrafricain Simcha Aharon. Alors, je crois qu'il n'est pas besoin d'être grand clerc pour percevoir que ce chant d'enfant appartient au domaine du jeu.
Tout ce qui est chant, en fait, est toujours inséparable du mouvement. Alors là, on a entendu, je crois qu'on entend, les enfants piétinent le sol, ils marchent, ils sont, c'est une espèce de ronde d'enfants, c'est qu'on continue de chanter. Et vous avez comme ça des dizaines et des dizaines de chants dans un groupe. Ça a été enregistré chez les Banda Linda, qui sont une population de quelques 20 000 personnes installées au cœur du pays. Et on a fait une étude avec une collègue, France Cloarec-Hess, du CNRS également, sur ce répertoire particulier de chants d'enfants. Et comme elle est linguiste, ça m'a permis, moi qui ne connais pas la langue, de pouvoir faire une étude avec elle sur l'implication des textes de ces chants. Et alors, il s'est avéré des choses tout à fait étonnantes. D'abord, l'ampleur du répertoire. Ces chants d'enfants sont une catégorie. C'est-à-dire que ces gens-là classent leur musique en catégorie. Je sais pas, en musique de chambre, musique sacrée pour enfants comme chez nous. Hein. Bon, les chants d'enfants, ce type de chants, sont une catégorie à part. Et on en a recensé plus de 60. Ce qui est quand même pas mal. Bon, ensuite, et ce qui me paraît bien plus important, quand on a décrypté les textes et qu'on les a traduits, alors au premier abord, dans la plupart des cas, ils étaient extrêmement hermétiques, on n'y comprenait rien du tout. Et ce n'est que par l'aide de nos traducteurs et de nos informateurs qui connaissent la tradition qu'on a commencé à déceler ce que ces chants cachaient. Or, ces chants ont presque toujours une fonction didactique, et l'une des principales fonctions didactiques est d'enseigner aux enfants tous les interdits, tenez-vous bien, relatifs à l'inceste. Car vous savez que les structures de parenté en Afrique sont particulièrement compliquées, et les enfants, dès leur plus jeune âge, doivent apprendre quelles seront les femmes avec lesquelles ils pourront éventuellement se marier, et toutes celles qui sont exclues. Or, vous avez dans certaines populations, vous devez savoir 250 personnes de l'autre sexe avec lesquels vous ne pouvez pas avoir de rapport. Et alors, il faut s'y mettre tôt pour retenir tout ça. Et ces chants-là, n'est-ce pas, qui ont l'air bénins, gentils, et qui d'ailleurs, et c'était très extraordinaire, ressemblent à tous les chants d'enfants de toute la Terre, hein, vraiment universels, n'est-ce pas, ont pour but d'apprendre aux enfants ces règles de l'inceste. Et il y a des jeux très clairs et dont la gestique est sans aucune équivoque, n'est-ce pas, pour apprendre cela aux enfants. C'est toujours cet aspect fonctionnel de la musique et curieusement cet aspect didactique de la musique. À quoi sert la musique à apprendre à des enfants les interdits relatifs à l'inceste?
À quoi sert la musique? Mais comment comprendre cette musique? C'est encore un aspect du problème que j'aimerais bien évoquer avec vous. Me souvenant de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, des surprises qu'elle provoquait lorsque vous étiez naïf encore par rapport à elle. Il faut juger, disiez-vous, avec leurs critères et non pas avec les nôtres. Mais il y a bien un moment où votre technicité de musicien professionnel a dû vous amener à bien saisir ce qui pouvait vous paraître encore abscon. Leur système, comment l'avez-vous décodé plus facilement à partir d'un certain moment?
Oui, c'est une question qui n'est pas simple. C'est-à-dire que j'étais parti du principe, précisément du principe extrêmement pragmatique, comme musicien, qui était moi-même musicien exécutant, et connaissant donc toutes les difficultés que pose, par exemple, le problème d'être ensemble quand on joue à plusieurs, chacun autre chose. Bon, en ce sens, quand les Africains font une polyphonie ou une polyrythmie à 5 ou 6 tambours, à 3 tambours, leur problème n'est pas différent de celui qui se pose à des musiciens qui jouent le trio de Brahms. Hein. Il s'agit d'être ensemble. Bien. Alors, le problème, il est, je dis, très très compliqué pour la première raison, c'est que ces gens-là sont tous de merveilleux musiciens et la théorie de leur musique existe, hein, parce que tout ça relève d'une théorie. Cette théorie est implicite. C'est-à-dire, on n'en parle pas, il n'y a pas de spéculation sur la musique, il n'y a pas de discours sur la musique, il n'y a pas de métalangage. Et il y a une théorie. Alors, si je l'affirme d'une façon si péremptoire, on pourrait se demander comment je le dis. Je dis que c'est très simple pour le vérifier. Dès que quelqu'un fait une faute, il faut voir les regards qu'on lui lance. Ce qui prouve bien qu'il y a des règles.
C'est cela, on suit un code.
Et il y a un code, mais le code, il n'est pas donné. Il faut le découvrir. Bon, alors ça. Donc, comme les gens ne peuvent pas vous expliciter parce que c'est vraiment pas dans leur coutume. Ils ne peuvent pas répondre au genre de questions que nous formulons, parce qu'elles sont toujours mal posées. Ce n'est pas leur faute à eux, c'est la nôtre. Et toute la difficulté, c'est non pas poser de bonnes questions, mais les poser de telle façon que les gens auxquels on les pose puissent y répondre de façon pertinente. C'est-à-dire, non pas que leur réponse soit pertinente, elle est toujours pertinente, c'est nos questions qui ne le sont pas. Bon. Alors, moi, j'étais parti du principe que quand on fait dans une société une musique qui n'a pas d'écriture, il faudra peut-être passer pour la décoder par un système qui ne soit pas écrit. Très simple. Donc, à travers des enregistrements, mais les enregistrements tels qu'on les fait présentent de nombreuses difficultés, parce que quand vous avez sur une bande magnétique trois tambours qui jouent ensemble, on ne sait absolument pas ce que fait chacun d'eux. Fait, n'est-ce pas ? Et pour les isoler, c'est pratiquement impossible sur un document enregistré. Or, quand vous demandez, et ça aussi c'est classique en Afrique, quand vous avez trois tambourinaires en face de vous qui jouent ensemble et vous dites c'est pas possible, c'est d'une complexité absolument incompréhensible. Et vous dites ils sont trois, on va demander à chacun de jouer seul. Et quand ils se mettent à jouer tout seul, c'est d'une simplicité aussi énorme que n'était la complexité une minute avant. Et chacun d'eux joue quelque chose qui est simple. Alors on dit bien très bien, alors maintenant rejouez là ensemble, je vais sûrement comprendre puisque j'ai tout compris. Et de nouveau on ne comprend rien.
Vous allez nous offrir un exemple de musique relativement complexe dans un instant en nous proposant l'écoute d'une pièce polyphonique. Je pensais en vous écoutant à l'instant à certaines réactions de musiciens professionnels occidentaux par rapport à certaines musiques occidentales de notre temps, par rapport singulièrement à une pièce d'Anton Webern, entre autres exemples, qui n'apparaît pas comme étant d'essence mélodique lorsqu'on la découvre pour la première fois. Et lorsqu'on prend le soin d'isoler les parties et de faire entendre les parties séparées, tout s'explique. Alors, c'est un peu le même comportement.
C'est aussi, on peut faire des analogies.
Si, oui, je dis bien si on très gratuite.
Si on veut faire une analogie, effectivement, on n'est pas très très loin. Mis à part toute la démarche qui est absolument inverse, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que Webern part de quelque chose de totalement abstrait, n'est-ce pas ? Il y a un processus mental qu'il traduit à travers une notation et qui sera exécuté tel quel. Bon, les Africains, eux, héritent quelque chose dont ils ne savent même pas de quand cela date, dont ils ne savent absolument pas qui l'a fait pour la première fois, et le reconstruisent, le refont, et le refont chaque fois autrement. Mais le matériau, effectivement, et ça, c'est là le point pour lequel l'analogie peut jouer, dans le sens économique, si on peut dire, n'est-ce pas, le peu de matériaux et son utilisation maximale. En cela, oui, effectivement, il y a des points communs.
Alors, nous allons entendre une pièce polyphonique maintenant pour ponctuer ce que nous avons déjà entendu dire et pour peut-être amorcer la suite de notre entretien. Yeah. En effet, Simra Arom, cet exemple vient à propos pour vous aider à compléter peut-être le raisonnement que vous aviez esquissé avant de l'entendre, ce chant polyphonique, pygmée, et très frappant par l'économie des moyens utilisés. Mais les comprendre, ces moyens, en comprendre le système.
Ça, c'est en effet le problème du décodage. Tout d'abord, arriver à isoler les parties, pour voir un peu ce qui réellement se passe. Ce qu'on sait, ce qu'on peut percevoir comme ça en écoutant, c'est que c'est toujours le même matériel qui est mis en œuvre, avec des variations, et sur une structure cyclique ou périodique qui fonctionne sur 8 ans. Oui, alors ça c'est vraiment des choses très simples. Passer cela, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors bon, moi j'ai mis au point un système sur un principe qui en fait est utilisé chez nous dans les variétés, qui est très connu, c'est celui du playback. Mais l'utilisation que j'en fais est l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des enregistrements aujourd'hui, même en musique classique, on pose 10 ou 15 ou 20 micros qu'on enregistre chacun sur une piste séparée et ensuite on mixe le tout. Or, le problème, quand vous voulez comprendre une polyphonie orale, c'est précisément de démixer les parties. Donc, alors le principe, très rapidement, consiste à enregistrer les musiciens, les chanteurs par exemple, dans un cas comme celui-ci, les uns après les autres, en leur faisant entendre à travers un casque qu'a chanté leur prédécesseur, celui qui chantait avant. Et là, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes et d'objections qui sont de nature anthropologique, si vous voulez. Est-ce qu'en procédant de la sorte, on ne porte pas atteinte à la musique? Est-ce qu'on ne les met pas dans des conditions absolument artificielles? Ce qui est tout à fait exact, on les met dans des conditions artificielles. Mais précisément, je pense que cette objection ne fait que renforcer la preuve que ces musiques sont structuré de façon très très rigoureuse, car si elle ne l'était pas, ça ne pourrait pas fonctionner. Or, non seulement cela ne gêne pas les musiciens de procéder ainsi, au contraire, ils sont toujours très amusés par l'idée de porter un casque, par l'idée de chanter ou de jouer en écoutant les autres parties à travers le casque, parce que le casque, pour les musiciens avec lesquels un ethnomusicologue travaille, c'est toujours l'outil de l'ethnomusicologue. Celui, n'est-ce pas, du monsieur de l'extérieur qui vient là et qui manipule des appareils très compliqués. Et tout d'un coup, à travers ce casque, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait, parce que naissait une espèce de collégialité, n'est-ce pas, du mot collègue, en quelque sorte. Tout le monde avait son casque, et d'autres musiciens, des vieux, qui ne jouent pas, mais qui écoutent, qui sont là, qui contrôlent à l'oreille, à travers leur casque, et à l'œil, parce que nous sommes en contact visuel, tout ce qui se fait lorsqu'il y a une erreur, par exemple quelque chose qui ne va pas, immédiatement ils me font signe. Et par ce procédé, on arrive donc à isoler toutes les parties tout en les maintenant synchrones ensemble. À partir de là, ben, on se met à faire des partitions, comme faisait Webern, mais par la démarche inverse, c'est-à-dire de les écrire à partir de la musique jouée et non pas à partir d'une pensée abstraite. Et là apparaissent des choses tout à fait étonnantes, c'est que au fur et à mesure de la pratique, les gens, eux, voient très bien ce qu'on fait, n'est-ce pas? Le mot primitif n'a pas cours ici. Hein. Les gens, quand ils vous voient faire, ils comprennent très bien ce que vous cherchez à faire. Même s'ils ne savent pas lire la musique, ni lire du tout, ni lire la musique. Et à ce moment-là, petit à petit, mais enfin, c'est un processus très long, il y a une espèce de langage commun qui commence à prendre corps, et tout d'un coup, après 5-6 ans, vous vous rendez compte que les gens vous disent « Oui, mais ce que je chante là, c'est pas la vraie mélodie. » « Ah, alors qu'est-ce que c'est la vraie mélodie ?» Et tout d'un coup, vous avez un pygmée qui dit « Je vais te la chanter », et qui se met à chanter quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une chose qui ressemble, si vous voulez, en tout point, à un cantus firmus, tel que c'était fait sur des polyphonies du 14e, 15e siècle. Et que lorsque vous allez un peu plus loin, c'est-à-dire un an après, parce que ce sont des choses qui vont très très lentement et vous ne pouvez pas aller vite à cause de ces difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, d'absence de vrai métalangage, que vous apprenez tout d'un coup que ce que vous appelez cantus firmus, entre guillemets, a un terme dans la langue des pygmées. Ça s'appelle, je vais vous le donner, ngwe wa lembo, ce qui signifie tout simplement la maman du chant, c'est-à-dire la matrice du chant. Alors, après cela, vous vous rendez compte, ce n'est pas convaincu que les pygmées ont une théorie de leur musique, et qu'on peut y arriver, mais La maman du chant, c'est eux qui la donnent. Et moi, je ne la connais pas. Une fois qu'ils l'ont donnée, je dis, tiens, j'ai avancé. Et finalement, le décodage se fait à travers leurs critères et non pas les miens.
Vous venez de résoudre et de répondre en même temps à une question et à un sujet d'interrogation. Résoudre une interrogation et répondre à la question. Je voulais, pour terminer cette émission, envisager avec vous bref discussion peut-être sur ce que pouvait être la problématique de l'ethnomusicologue. Vous venez d'y répondre. Mais je n'oublie pas que dans les travaux que vous avez déjà accomplis, un point est à souligner qui me paraît beaucoup plus important encore que ce que je pourrais inventer pour vous interroger. C'est la réalisation qui vous a été confiée d'un musée là-bas. Parce que ça n'est pas seulement la musicologie qui intervient, c'est l'ethnologie, c'est l'anthropologie, c'est l'histoire. Et tout ce que vous venez de dire sur ce rapport entre la théorie pygmée et notre cantus firmus, peut-être doit se retrouver à d'autres échelles dans le musée que vous avez conçu. Je viens de loin, dirais-je.
Oui, très de très loin. Et aussi, La réunion d'éléments aussi différents qu'une culture, disons, orale, qui est la musique, et que la culture matérielle que l'on peut faire figurer dans un musée, c'est vraiment des mondes très différents, quoique pour les Africains, effectivement, liés. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un musée, parce que mon intention au début n'était pas du tout de faire un musée, c'était de faire des enregistrements, de faire une sorte d'archive sonore à la demande du gouvernement centrafricain. Il s'est trouvé que faire des archives sonores sans qu'on puisse voir les instruments avec lesquels on fait la musique qui figure dans les archives, je trouvais ça un peu simplet. Alors il fallait donc faire une collection d'instruments de musique. Et faire une collection d'instruments de musique dans un pays où il y avait de collection de rien du tout, c'est-à-dire où il n'y avait aucun musée, m'a amené à faire un musée, si l'on veut, des cultures traditionnelles, n'est-ce pas ? Un musée d'ethnographie, pour appeler la chose par son nom.
Nous vous aurons à fournir, avant de nous séparer, une preuve sonore encore du monde dans lequel vous vivez fréquemment. Un point est à souligner lorsqu'on lit le texte qui agrémente votre dernière anthologie, celle des Pygmées Aka. On s'aperçoit que 5 années ont été nécessaires pour sa réalisation et on pourrait croire que ces 5 années furent seulement occupées par ce travail. Tout ce que vous venez de nous dire prouve bien qu'il n'en est rien. Mais on comprend aussi que le choix ait été difficile en raison même de ce que vous venez de nous dire, des différentes modifications sur un même thème.
Et on peut résumer la nécessité, le fait que cela dure si longtemps par le petit dialogue que j'ai cité tout à l'heure. Ah, mais vous avez aussi ce type de musique, mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Parce que tu ne m'as jamais demandé, ce qui fait que pour arriver à avoir une vue assez générale des différentes catégories de musique, des différents types de musique. Il y en a qui vous échappent complètement au cours de la première mission, de la deuxième mission et du troisième séjour, et ainsi de suite. Et il faut un certain nombre d'années pour y arriver. Et alors, si cet album porte le titre peut-être prétentieux d'anthologie, c'est que je crois aujourd'hui que figurent dans ces 3 disques toutes les catégories musicales propres à ces Pygmées Aka. Mais je ne serais pas autrement surpris d'apprendre dans 1 mois et demi, car je vais y retourner, qu'il y en a une autre qui m'a complètement échappé. Ce serait bien dommage, mais en même temps, je serais bien content. Mais finalement, c'est un peu ça l'intérêt, enfin le côté passionnel de ce métier, parce qu'on n'a jamais rien n'est jamais définitivement acquis.
C'est toujours l'œuvre en progrès, pour parler comme Joyce, alors.
Finalement, toute l'ethnomusicologie, c'est une œuvre en progrès, puisqu'il s'agit d'une discipline jeune qui n'a pas 100 ans encore. Et ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, seulement parler d'Afrique, malgré les disques de plus en plus nombreux qu'on voit chez les disquaires, il faut quand même dire que ce qu'on sait sur l'ensemble de la musique africaine, c'est pas grand-chose. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour ne serait-ce que connaître.
N'est-ce pas là, Simra Arom, la loi particulière d'un comportement scientifique, que d'avoir face à soi encore tout un monde à prospecter, toute une sorte d'inconnu à identifier.
Heureusement.
Pour l'heure et pour nous séparer, en vous remerciant d'être venu nous rencontrer dans ce studio, je vous proposerai d'entendre un fragment de cette anthologie à laquelle il a été fait référence à plusieurs reprises durant cette émission. En tout cas, là, il s'agit d'une œuvre fixée, d'une œuvre de référence, et ce que nous en savons pourra être peut-être modifié par la suite, mais vous nous apporterez un complément d'information un jour, sous forme de nouveaux enregistrements. Tel que vous connaissez aujourd'hui la musique centrafricaine et celle des Pygmées Aka, nous allons le réentendre une fois de plus avec l'extrait que vous nous proposez.
Alors, c'est une musique rituelle qui est exécutée la veille du départ pour les grandes chasses. C'est une musique de divination au cours de laquelle le devin voit dans le feu si la chasse tout d'abord peut avoir lieu et en cas de réponse affirmative du feu, si tout va se passer sous de bons augures.
Merci Simra Aram. Thank you.
C'était Musique de notre temps, la musique des Pygmées Aka, avec Sima Arom au micro de Georges Léon, une émission diffusée pour la première fois le 14 novembre 1978 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.